Time Sport avec Bilal Nelman sur Beur FM.
Bonsoir à tous, bienvenue sur Time Sport, émission sport de 19h à 20h sur Beur FM. Non, ce n'est pas Bilal Nelman, c'est Claude Tollet exceptionnellement qui présente l'émission ce soir. Donc oui, donc il y a un travail à faire, mais ça a très bien se passer avec une superbe équipe que j'ai ce soir. On va y revenir tout de suite. Alors le programme, on parlera notamment de l'Olympique de Marseille, Andrés Villas-Boas qui n'imagine pas l'avenir sans Payet. Et ensuite on parlera donc alors on devait avoir un invité qui ne sera pas présent, Vikash Dorasso. On espère le recevoir prochainement. On parlera Ligue 1 aussi avec Lille qui recevra le Paris Saint-Germain, ça sera dimanche soir. Et puis basket aussi, NBA avec Milwaukee Bucks contre Charlotte Hornets, ça sera du côté de la France, un match NBA en métropole. Et puis on finira avec le tennis, l'Open d'Australie et femmes.
Time Sport.
Avec moi ce soir, belle équipe, Achille, comment ça va?
Ça va. Pas trop stressé?
Non, tranquille.
Calme?
Non, on est bien, on est bien.
On va pas être trop méchant.
Il faut, n'hésitez pas. On va c'est passer ça. Un bon moment. Ça c'est important. Alison Kounkou qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Alison?
Ça va, et toi, pour la première de Claude Tollet, ouais. La présentation, baptême du feu.
Ouais, ça va, impeccable. On est bien. Il en faut bien commencer.
Eh oui.
Un jour. FX.
Salut Claude.
Comment ça va?
Ravi d'assister à cette première fois avec toi.
Ça va bien se passer, FX.
Ça va bien se passer.
Eh oui. Et puis le El Presidente, il a insisté pour que je n'oublie pas son surnom. Comment ça va, Kamel?
Ça va, Claude. Un plaisir de faire partie de cette équipe qui assiste à ta première.
Ah, c'est
il sera une grande réussite, je n'en doute pas.
Il n'y a pas de
et
raison.
Et je souhaite bonne soirée à nos auditrices et nos auditeurs.
Vu l'équipe, il n'y a pas de raison, je ne m'inquiète pas.
On t'a mis
pas.
La meilleure équipe, là. On t'a mis le PSG.
Hey, je suis dans les meilleures conditions. Et puis sans oublier Yanis qui est avec nous à la réalisation. Tout de suite, le ras-le-bol.
Time Sport, le ras-le-bol.
L'Olympique de Marseille, Andrés Villas-Boas n'imagine pas l'avenir de l'OM sans Dimitri Payet. Ciblé par West Ham, le milieu offensif sera suspendu samedi contre Angers. Son entraîneur Andrés Villas-Boas n'imagine pas l'avenir sans lui. Kamel,
que dire, il y en a marre. On peut pas laisser l'OM tranquille, c'est un truc de dingue. Quand c'est pas, bah après c'est vrai que comment il s'appelle, le fameux Aldridge est venu pour ça, est venu pour vendre les joueurs et donc vendre aussi les joueurs qui sont bankable. Donc il y a Payet, il y a Thauvin et donc Payet parce que West Ham veut le retour de Payet. Mais moi je pense que il faut pas vendre Payet parce que l'OM a besoin de toutes ses armes pour viser cette Ligue des Champions. Après, soit ils font un choix intelligent, stratégique, ils gardent toutes leurs forces pour aller en Ligue des Champions, et après, en fin de saison, voire début de saison, s'ils doivent vendre, ils vendent, parce qu'après, il y aura une rentrée au niveau de la Ligue des Champions. Mais ça ne sert à rien de vendre des joueurs, et à cause de la vente de ces joueurs, de louper la Ligue des Champions. Et on sait très bien que la Ligue des Champions, c'est minimum entre 45 et 50 millions d'euros. Plus en plus, ça permet d'être attractif par rapport au recrutement qu'on peut faire par rapport à d'autres joueurs, hein, sans vouloir les payer, des joueurs en prêt, etc. Parce qu'ils viendraient à l'Olympique de Marseille, qui est un magnifique club en plus, parce qu'ils jouent la Ligue des Champions. Mais voilà, mais sincèrement, il y a toujours quelque chose. Villas-Boas, le pauvre, il doit en avoir marre. Et il y a un moment donné où il y a un problème de gouvernance et le président doit monter au créneau et dire stop. Voilà, il est hors de question de vendre Dimitri Payet. Laissez le groupe tranquille, laissez-nous travailler tranquille pour qu'on espère atteindre cette deuxième place. Donc là, il y en a marre de ces soubresauts qui viennent actuellement, comme des vagues sur un tsunami. Il y a des petites vagues qui arrivent et boum, une grosse vague. Après, demain, ça va être Thauvin et non, faut arrêter, faut que le président, il soit ferme et il tape du poing sur la table.
Comme le dit Kamel hier matin, nos confrères L'Équipe annoncent que West Ham s'intéresse de très près à Dimitri Payet. Le club anglais actuellement en grande difficulté en championnat chercherait une solution pour se maintenir en première ligue. 17e du classement, les Hammers seraient prêts à faire revenir le Marseillais, et ce malgré son départ incompris des supporters il y a 3 ans. Achille, ta réaction?
Je prends des chips et je regarde ce qui se passe. C'est un film. Ouais. Bah, l'OM, c'est un film.
Ouais, Achille,
c'est vrai. Dixit, un Parisien.
Bah, c'est la vérité. En même temps,
Mais c'est vrai, c'est le cinéma. Hein, t'as raison. C'est totalement le cinéma.
C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, Monsieur Véro, avec ses paris sportifs, c'est Paris Turf, hein, c'est ça, l'ancien directeur de Paris Turf qui recrute Paul Aldridge sans consulter son équipe dirigeante. Là maintenant, Villas-Boas qui lui met un tacle à la gorge, demain, enfin pas demain, mais aujourd'hui, Villas qui dit oui, bon, j'aimerais bien que Dimitri Payet puisse quand même rester au club, etc. C'est un film en fait, c'est une telenovela. Tous les jours, il y a des nouveautés, etc. Non, concrètement, pour
oui,
être un peu
c'est
plus...
un film avec du suspense. Non, alors que le PSG, on connaît l'équipe, on connaît la fin du film tous les ans.
Il n'y a même pas de suspense à voir. Je suis désolé, Dimitri Payet, s'il doit partir, bah, qu'il parte. Ça va faire du bien aux finances du club, parce que c'est un gouffre financier. Je suis désolé, l'investissement qui a été mis en place pour ce joueur-là, il est extrêmement lourd sur une durée de 5 ans. Ça ne sert à rien, d'autant plus que Marseille s'est parfaitement bien débrouillé sans lui en début de saison. Lorsqu'il a été suspendu, les résultats étaient présents. Et partant de là, je ne vois pas pourquoi on ferait un Manitou, oui, Dimitri Payet. Ah, c'est bon, va manger, va commander chez Uber Eats.
Alisson,
j'attendais ça.
Alisson, pour toi, Payet, comme le dit Achille, doit quitter l'Olympique de Marseille.
Je ne parlerai pas de devoir quitter l'Olympique de Marseille. Il s'est révélé hein, depuis qu'il est revenu en France, hein, du côté de Marseille. Après, en ce qui concerne la communication de Marseille, c'est pas clair hein, tout ça. Depuis un petit moment, tout est un peu flou, tout est un peu brouillon. On parlait d'une telenovela à suspense, hein, c'est exactement le terme. C'est exactement ce qui se passe du côté de Marseille. Dimitri Payet maintenant est le nouvel épisode de cette telenovela. Quand il est revenu, il a fait quand même des bonnes performances. Après, comme dit Achille, le Marseille s'est bien débrouillé sans lui en première partie de saison. Donc, s'il est amené à partir, donc pourquoi pas continuer. Mais quand même, l'Olympique de Marseille, c'est un club qui vise aujourd'hui la deuxième place, qualificatif direct pour la Ligue des Champions, avec Dimitri Payet. Vu déjà l'effectif réduit et juste de Marseille, ça serait quand même un point en plus.
Et Fix, est-ce que tu es du même avis ?
Bien sûr, je suis du même avis, c'est même du bon sens. Payet est très bon depuis le début de la saison, ça n'a pas été le cas l'année dernière, mais là il est quand même il apporte une plus-value. On l'a vu encore lors du match à Rennes avec son coup franc qui amène le but de Strootman. Il tire très bien les coups de pied arrêtés. Son positionnement à gauche avec sa capacité à se recentrer, c'est une vraie trouvaille, puisque au début on se posait des questions. C'est pas un vrai ailier, etc. En fait, il fait très bien l'affaire et justement il déstabilise pas mal avec cette capacité qu'il a à se recentrer et à déstabiliser les défenses adverses. C'est clairement un atout indispensable pour cette deuxième partie de saison. Et je pense que l'OM a beaucoup plus à gagner à se qualifier en Ligue des Champions qu'avant de Payet et à dégringoler.
Achille.
Alors, je tiens juste à préciser, hein, auquel cas, parce que là on est dans un monde de bisounours, on veut que Payet puisse rester. Je tiens juste à rappeler que le fair play financier attend jusqu'à la fin de la saison, donc c'était au 30 juin. Marseille doit injecter 60 millions d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a un club qui vient et qui dépose 30 millions sur la table, ou même 20 millions sur la table.
Mais 20 millions pour Payet.
Non mais on ne sait pas.
Mais quel club qui a 60 millions sur Payet ?
On ne sait pas. À un moment donné, s'il y a un club qui a les moyens financiers et surtout d'assumer le salaire de Dimitri Payet, il est pas loin des 500 000 euros par mois. Parce qu'à un moment donné, s'il y a un club qui vient et qui pose de l'argent sur la table, L'Olympique de Marseille, parce que si l'Olympique de Marseille garde Payet et termine deuxième du championnat, ils peuvent très bien se faire exclure de la Ligue des Champions. Non. Et là, non. Pas de droit. Attention, le gendarme.
Je vais t'expliquer. Tout se base par rapport à la FIFA, fair play financier. La FIFA, ils sont pas si durs. L'UEFA, excuse-moi. Ils sont pas si durs que ça. C'est-à-dire que
le Milan AC, c'est auto-exclu. Hein.
Oui, non, mais Milan AC, ils avaient d'autres problèmes. Ils avaient personne à la tête pour mettre de l'argent, etc. Donc là, au moins, t'as ma cause. Mais au-delà de ça, on se base toujours sur un budget prévisionnel. Ça veut dire sur des futures entrées, mais des entrées sûres. C'est-à-dire les transferts ne sont pas des entrées sûres. D'accord. Donc l'UEFA va voir que l'Olympique de Marseille est qualifié en Ligue des Champions, que s'il termine deuxième, ce que je souhaite, automatiquement ils vont
millions,
hein. Oui, non mais
ils vont... la Ligue des Champions,
non mais il y a un plus trou. Non, non mais attends, mais oui
mais
non,
mais ensuite à la fin de saison, pourquoi pas,
je peux terminer, je peux terminer,
bah oui.
Non mais même l'UEFA laisse toujours des délais, donc ça veut dire que il y aura minimum une entrée de 40 millions sûre, parce que ça sera la Ligue des Champions, et après, comme le dit Alisson, on peut vendre Payet. Mais moi, au-delà de ça, sportivement, quel intérêt pour Payet d'aller à West Ham, de jouer la 17e place? Aucun intérêt. Là, il peut jouer la 2e place avec Marseille. Et à la fin, comme je pense tout le monde l'a dit, parce qu'on a tous du bon sens, à la fin de la saison, Marseille est 2e. Et là, vous vendez Payet et vous faites venir d'autres joueurs parce que vous êtes plus attractif. Faire le contraire, ce serait n'importe quoi.
Justement, FX, n'est-ce pas étonnant de voir que le Français a visiblement toujours la cote outre-Manche?
La côte outre-Manche, ça dépend de quel français tu parles, mais
Dimitri Payet,
oui, oui, parle. Parce que le français, je pensais que tu parlais en général des Français qui se présentent outre-Manche. Enfin, je sais pas, moi perso, j'ai pas trop la côte outre-Manche, mais Payet, oui, je pense qu'il a plutôt la côte outre-Manche. Non, je le vois pas retourner dans un club où il a déjà fait son temps. Il a passé un an et demi là-bas.
Oui, un an et demi. Puis ça joue à 17ème place. Il faut arrêter.
Il est parti comme un mercenaire. Il leur a fait un sale coup. Je veux dire, au bout d'un moment, est-ce qu'on se remet avec son ex? Non. Enfin, ça foire, quoi. Je sais pas. Je pense qu'il a un peu de.
Ça dépend pour qui.
Justement, Alison, ce qui serait pas étonnant donc de le voir revenir de l'autre côté de la Manche avec malgré ce départ un petit peu, voilà, comme l'a dit FX, un peu précipité, on sait qu'il voulait revenir à l'Olympique de Marseille.
Bah là, l'instant T, ça a été très bien résumé. Hein. Sportivement, en tout cas, après financièrement, ça doit être une autre paire de manches. Mais sportivement, là, à l'instant T, il y a aucun intérêt. Quand l'année prochaine, possiblement, on va jouer la Ligue des Champions. Après Marseille, le parcours en Ligue des Champions, ça c'est encore une autre histoire. Mais déjà accéder à la Ligue des Champions en tant que joueur, c'est quand même une grosse étape, c'est quand même une grosse chose.
Bien sûr.
Et retourner de l'autre côté de la Manche à West Ham, qui ne joue pas ni le début ni le milieu de tableau, sportivement, en tout cas, ça n'a aucun intérêt.
Et puis même au niveau de Payet, juste une chose qui est intéressante à voir, c'est s'il fait une deuxième, il continue sur sa lancée parce qu'il a fait une très bonne partie de saison. Il fait une deuxième partie de saison magnifique et il continue sur sa lancée et il qualifie l'OM en deuxième place. Ça sera pas West Ham qui viendra le chercher. Ça sera un club beaucoup plus épais. Pourquoi pas taper du Arsenal, des clubs comme ça. Et lui, son intérêt, c'est d'aller jouer plus haut, de pas aller jouer à la 17ème place, aller au Queen's Park Rangers. Il y a l'euro aussi en plus. Donc vaux mieux qu'il soit.
Non mais bien sûr, fixe. Attendez, entre un mec qui joue pas.
Quelle légitimité il n'est pas plus légitime qu'un Giroud. Je suis désolé, Giroud joue jamais. T'as joué plus que Giroud, j'ai joué plus que Giroud. C'est-à-dire zéro minute.
Ah, Kamel quand même.
Arrêtez les gars. Il est plus légitime qu'un Giroud.
Par rapport à ça, à un moment donné, vous parlez de Dimitri Payet. Oui, c'est bien. Là, on parle du point de vue de Dimitri Payet. Bien sûr qu'il est dans son intérêt, c'est de rester à l'OM. Il a un excellent salaire. Il a la possibilité, effectivement, de pouvoir jouer et d'être compétitif en Ligue 1.
Comme l'a dit FF,
mais si on prend le point de vue du club et les finances du club, Dimitri Payet doit partir.
Payet doit partir dès le mercato hivernal.
Voilà.
Il ne partira pas.
Moi, je prends le parti du club. Attention, pas le parti du joueur. C'est deux choses diamétralement différentes, quoi.
Achille, on est d'accord, que Payet est quand même le maître à jouer de l'équipe.
Exactement. Bien sûr. Donc là,
le maître à jouer, Thauvin n'est pas là.
Bah oui, on parle.
Alison.
Mais justement, là, si on parle d'un point de vue de l'Olympique de Marseille, qui joue potentiellement la qualification pour la Ligue des Champions, là, faire partir Dimitri Payet, qui fait, je le rappelle encore, une bonne saison, qui a marqué quand même 6 buts. et ça serait
vous avez, se tirer la meilleure recrue, c'est Villas-Boas. Donc faut entièrement avoir confiance en son coach.
Mais au-delà de ça,
André Villas-Boas qui va faire du très bon travail.
Il y a un moment donné t'es dirigeant d'un club. Hein, d'accord. Héros, soi-disant, il est surdiplômé.
Non, ça c'est pas vrai.
J'ai bien dit soi-disant. Il est surdiplômé. Donc j'ai rien demandé. Quand tu diriges, tu anticipes. D'accord, tu me fais des projets. Donc le projet de l'OM, c'est de vendre à la fin de la saison qu'elle sera deuxième. Et maintenant, imagine tu vends Payet pour les raisons financières. On va aller dans ton sens. Ouais. Quel message t'envoies aux joueurs? Quel message t'envoies au club? Ça veut dire que tu envoies un message de dire demain, si Thauvin il était sur le terrain, ils auraient vendu tant. Ça veut dire que ils veulent pas aller en Ligue des Champions. Oui. C'est un mauvais message que t'envoies et c'est destructeur.
Rappelez-vous quand même de la conférence de presse la semaine dernière de Villas-Boas. Qui estimait qu'il aimerait garder un maximum de ses joueurs. Quelles seraient les conséquences si on se retrouvait avec un départ de.
Non, mais il partira à la fin de la saison, Villas-Boas, hein, faut pas rêver. Hein. Il partira à la fin de la saison et quelque chose qui s'est cassé.
Tu sais beaucoup de choses. Tu fais-nous part de tes sources.
Non, c'est pas des sources, c'est juste une analyse. Ouais, ouais. D'André Villas-Boas qui marche avec des valeurs, ce qui n'est pas forcément le cas.
Après l'élimination du PSG.
Bien entendu, c'est facile aussi de le dire.
Tu penses que même en jouant la Ligue des Champions, en recrutant quelques joueurs, en réinjectant du 109 à l'Olympique de Marseille, il partira quand même. Avec ce qu'il a fait de beau cette saison à Marseille.
Moi je pense qu'il partira quand même pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas la garantie sportive. Et c'est-à-dire que il a eu un discours en début de saison. C'est-à-dire que si lui, son objectif, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions et pour pouvoir ramener des renforts, Donc, quand on dit ramener des renforts, c'est injecter de l'argent. Donc, si de l'argent, c'est pas injecté, et que là, dès le début, on est au mois de janvier, on fait venir quelqu'un pour vendre les joueurs, ça veut dire que derrière, le propriétaire n'est pas prêt à réinjecter des fonds. Donc, qui dit pas de réinjection de fonds, il va aller en Ligue des Champions pour aller se ridiculiser.
Non, mais,
avec qui
mais,
comme équipe
Achille,
il partira.
Achille, moi, je suis d'accord. Attends, mais non, mais attends. Achille, moi, je suis d'accord avec toi dans un sens. C'est-à-dire que il y a un moment donné, c'est toute une question de stratégie, de politique du club. Ça veut dire si le club, la décision, elle va être prise là. Sa décision, elle est prise là. Si aujourd'hui Payet part au mercato, on est sûr à 100% que Villas-Boas partira. Maintenant, s'ils sont intelligents, ils gardent Payet, ils se qualifient en Ligue des Champions, ils disent à Villas-Boas, écoute Villas-Boas, nous on va vendre un, deux joueurs, mais vu qu'on est en Ligue des Champions, on sera beaucoup plus attractif, on pourra ramener des joueurs qui veulent se relancer, des joueurs en prêt, etc. Et donc Villas-Boas restera. Lui, il veut des garanties. La garantie, c'est ça, à part maintenant les garanties.
Je suis entièrement d'accord avec toi, et pourquoi pas ? La seule chose, c'est le fair play financier. L'Olympique de Marseille a une deadline.
On continue avec les fixes.
Oui, juste. Oui, parce qu'à un moment donné, sur le fair play financier, tu ressasses ça. Je te rappelle que le club que tu aimes bien, je ne le citerai pas lequel,
le Paris Saint-Germain,
a réussi à dealer un accord avec le fair play financier, alors qu'on sait que c'est complètement pipoté, que c'est un truc totalement artificiel, c'est gonflé, tous ces contrats de sponsoring, c'est le Qatar et point barre. T'as Nike, mais ils ont trouvé un accord avec l'UEFA alors qu'ils étaient censés ils se dirigeaient droit vers une exclusion de toute compétition. Finalement, in extremis, je ne sais par quel miracle, ils ont réussi à contourner tout ça. Donc, je peux te dire que l'OM, les 60 millions, ils vont très bien les gérer en vendant deux mecs.
Et juste, Achille, je vais donner une information que tu connais, le fair play financier, d'accord ?
Mais il va sauter de manière.
Non, mais attends, laisse-moi terminer mon propos. Ils n'ont pas intérêt à emmener des clubs en procès parce qu'ils vont sauter bientôt. Et c'est anticonstitutionnel. Ça veut dire qu'ils empêchent la libre circulation.
C'est pas anticonstitutionnel, c'est contre les lois européennes.
Donc ça veut dire que demain, la FIFA, l'UEFA, c'est pour ça qu'ils ont fait un accord avec le PSG, ils vont faire un maximum d'accords avec les clubs pour justement ne pas faire de vagues parce qu'ils savent très bien que s'ils vont en procès, ils vont automatiquement perdre. Ils savent très bien.
Ouais, bon, Achille, pour terminer avant la pub.
Dans tous les cas, vous avez l'air d'être assez serein pour l'Olympique de Marseille.
Bien sûr.
Alors, l'OM doit se retrouver au moins avec un déficit de 30 millions. Par le
30 millions,
play.
C'est bon. Et alors,
ouais, c'est 30
ils ont 80 millions.
Mais justement, c'est ça. Je pense que
le maximum, c'est 30 millions.
Se qualifiera pour la.
Sauf qu'à l'heure actuelle, ils sont
ensuite,
à 80 millions.
Alors, des joueurs. On parle. Je pense que ça va se passer vraiment dans ce sens-là. La qualification, la vente, et puis ensuite réinjecter pour la Ligue des Champions.
Regarde. T'as un déficit de 80 millions à la fin. Juin.
Au moment où on parle, l'Olympique Marseille a 80 millions.
Il y a un déficit,
donc il y a 60 millions à aller chercher.
Non, mais attends.
À peu près.
Achille, soyons un peu pragmatiques et on va se poser. 80 millions de déficit. Le fair play financier autorise 30 millions d'euros sur chaque exercice. Ouais. D'accord ? De déficit, sin autorisation. Donc ils se qualifient en Ligue des Champions. Ils ont sûr d'avoir 40 à 45 millions sûr. Ça fait 42 millions sans compter les matchs de poule. Voilà. Un match nul, faut le dire à nos éditeurs, c'est 900 000 euros.
Merci.
Et une victoire, c'est 2 millions.
Donc on marque une pause, on se retrouve après.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenmal.
Sur Time Sport, sur Beurre FM avec Vivien, qui vient de nous rejoindre. Comment ça va, Vivien ?
Ça va et toi, Claude ?
Bah écoute, ça va impeccable. On voit que t'as les cheveux qui poussent, Vivien, c'est agréable. Donc t'es dans cette condition, toujours en forme ?
Toujours, la même coupe que Michael Jordan, on est fiers. On assume.
Toujours avec la même équipe, Alison, El Presidente, Achille et FX, on va enchaîner avec la victoire.
El Presidente, Kamel.
Time Sport, la victoire.
El Presidente, Kamel.
Voilà.
Il a les larmes
aux yeux. J'ai un livret de famille.
Ligue 1, Conforama. Lille, Paris Saint-Germain, 21e journée de Ligue 1. Le coup d'envoi de ce match qui se déroulera au stade Pierre Mauroy à Lille sera donné ce dimanche à 21h. Avant la rencontre, Lille est classé 5e de Ligue 1. Le PSG, leader incontestable de ce championnat. Y aura-t-il match au stade Pierre Mauroy avec ce Paris Saint-Germain qui roule super en ce moment? On se souvient que les nordistes avaient assommé les Parisiens qui s'étaient lourdement inclinés au stade Pierre Mauroy 5-1 en fin de saison l'année dernière. Alisson,
Déjà, justement, le Paris Saint-Germain aura à cœur d'effacer cette lourde défaite, hein, c'est de déculoter même 5-1. Et ensuite, est-ce qu'il y aura match? On l'espère. Hein. Lille, de son côté, c'est à un pied à terre après sa défaite en Coupe de la Ligue contre Lyon, qui a laissé quelques traces dans l'effectif lillois. Donc, ça permet aussi, la Ligue 1, c'est un championnat très serré. Donc, ça permet aussi de remonter dans le classement. Lille a proposé contre Lyon un jeu très agressif avec un pressing très haut. Contre le Paris Saint-Germain, ils devront réitérer cette performance, pourquoi pas accrocher un résultat.
Elle présente Kamel, on s'attend à quoi dimanche soir?
Bah après ça dépend. Bon, après moi j'ai confiance en Galtier parce que c'est un entraîneur qui en a, hein, qui en a entre les jambes.
Il a quoi?
Et qui va pas, bah il a un pantalon. Qui va pas faire comme les trois quarts des entraîneurs de Ligue 1 quand ils jouent contre le PSG, ils y vont en victime expiatoire. Hein, comme Reims, etc. Donc, s'il y va avec une équipe offensive, comme le disait Alisson, comme il a fait contre Lyon, je pense qu'on peut assister à un beau match. Mais après, on sait très bien que le PSG, ils nous agacent parce qu'ils sont imbattables. Mais après, on peut avoir un beau match. Tout est possible. Hein. Je veux dire qu'on l'a déjà dit, Reims les a battus. Ils ont eu deux ou trois défaites en championnat. Donc, après, il suffit juste d'y croire parce que les entraîneurs français, moi, j'entendais des fois un entraîneur français qui gagne 4-3. Le journaliste lui pose la question: est-ce que vous êtes satisfait de votre victoire? Non, je suis pas content. Pourquoi? Parce que j'ai pris 3 buts. Espèce d'abruti, t'as gagné.
Le oh, Kamel, quand même.
Laisse-moi terminer. Non, mais c'est ça la Ligue 1 Conforama. T'as gagné. Les spectateurs, les téléspectateurs, ils ont pris plaisir. Ils ont vu 7 buts. Nous, on paye pour venir pour voir ça. Tu veux quoi? Tu veux gagner 1-0? Demain, s'il y avait le football, on pouvait gagner avec un demi-point. Les entraîneurs français gagneraient avec un demi-point. Donc, à un moment donné, moi, je crois en Galtier. J'espère qu'il va aligner une équipe offensive. Et qui donne du fil à retordre. Et non, d'une pipe. Soyons français. Le PSG, non mais le PSG, au-delà de ça, le PSG a besoin de matchs comme ça, de matchs durs pour la Ligue des Champions. Et ils jouent que contre des amateurs. Non, ça, et après, ça. On se demande pourquoi ils sont éliminés en Ligue des Champions.
On enchaîne avec FX.
Claude, c'est vrai ou pas?
Kamel.
Mais si tu me coupes la parole.
Justement, je rebondis sur ta très bonne dernière phrase, on va dire. Parce que tu dis le PSG a besoin de bon adversaire, mais c'est exactement ça. Parce que le problème du PSG aujourd'hui, c'est plus de gagner la Ligue 1 ou la Coupe de France. C'est même plus ça la question. C'est de s'entraîner en fait. En fait, la Ligue 1, c'est un entraînement pour la Ligue des Champions. Et le gros problème du PSG, c'est qu'en fait, il n'y a pas de sparring partner. Quoi. Enfin, si, plutôt, c'est des sparring partners, mais il n'y a pas d'adversité. Et moi, je ne vois pas en quoi Lille peut vraiment poser des problèmes au PSG. Il faut arrêter de se mentir. Là, on n'est pas sur Canal Plus à essayer de vendre le match du dimanche soir. Il n'y aura pas d'affiche. Si le PSG décide de massacrer Lille, ils vont les massacrer. Si par contre ils ont envie un peu de se préserver, ils peuvent peut-être gagner à l'arrache, etc. Mais c'est le PSG qui a les clés en main. Et la vraie question pour le PSG, c'est de comprendre que s'ils veulent devenir performants en Ligue des Champions, ils ont besoin d'avoir une rivalité en Ligue 1 qui n'existe pas. Donc à eux de donner une partie de leur budget au club.
On voit Achille qui bouge sur sa chaise, qui se prépare. Achille.
Ouais. Alors tout d'abord, avant de commencer, petite dédicace à Bilou parce que je sais qu'il nous écoute. Monsieur Bilal Redman. Ouais, salut.
Allez, l'OM, Bilal.
Alors,
Bilal, le président.
Ah bon, voilà, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. On entend toujours des absurdités. Voilà, c'est ça.
Je reste concentré.
Voilà. On t'écoute. À un moment donné, c'est une répétition. Manque de peau pour Lille. Ben, l'échéance arrive de Dortmund pour le Paris Saint-Germain. Ils vont les écraser. Le Paris Saint-Germain va écraser Lille parce qu'ils sont en train de répéter leur gamme, peaufiner certains détails tactiques et techniques. On a pu le constater que face à Monaco, quand j'entends dire que oui, le Paris Saint-Germain n'a pas d'adversaire, je suis désolé, Reims nous a mis en difficulté parce que quand je dis nous, je m'inclus en tant que supporter du Paris Saint-Germain.
Et il le dit, Achille, il n'y a aucun problème
à le dire. Reims a mis en difficulté
le
Paris Saint-Germain, Monaco aussi également. Donc, à un moment donné, il y a des clubs qui arrivent toujours à mettre, alors peut-être pas sur 90 minutes, mais à bien gêner comme il faut le Paris Saint-Germain. Je parle aussi de Saint-Etienne, qui a aussi manque de peau pour eux. Ils ont eu un carton rouge, donc à 10 contre 11. Bon, la match, il est plié. Mais ce que je veux dire, la Ligue 1, c'est une répétition, mais pas tant que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même de l'adversité. Il faut quand même mettre en place que, c'est quand même des équipes, parce que sinon, ça sert à rien, quoi. Les mecs, ils sont pas motivés, etc. Non, pas du tout. Lille a joué la Ligue des Champions, donc c'est un adversaire digne de la Ligue des Champions. Voilà, donc c'est un adversaire digne de la Ligue des Champions.
Et
le Paris Saint-Germain fera un match digne de la Ligue des Champions, tout simplement.
N'hésitez pas à appeler les auditeurs. On a Karim de Marseille pour réagir. Bonsoir Karim.
Bonsoir messieurs, bonsoir BFM, bonsoir à tous vos auditeurs. Moi j'ai simplement une chose à vous dire, c'est que l'année prochaine, nous, on va entendre l'hymne de la Ligue des Champions au Vélodrome, mes amis.
Là on est au courant que voilà, Karim là, est un supporter de...
Vous allez avoir le feu, vous savez qu'est-ce que c'est le feu, le fire. Le fire, on va entendre « Mais on a chanté !» Ça fait 5 ans qu'on attend ça. Vous comprenez, on n'est pas à Paris ou autre, ici, c'est 20 degrés. Il est 20h aujourd'hui, on a 20 degrés. Vous comprenez ou pas?
On comprend très bien, Karim.
Il y a 67 000 personnes, on va être 67 000 fous. C'est pas des spectateurs, c'est des vrais supporters. Enfin,
Karim, faut pas prendre zéro point.
Qui va être encore là.
Merci. Alors, on a compris que Karim était supporter de l'Olympique de Marseille. Bien sûr, merci Karim pour votre réaction. On continue avec Vivien. Ce match, Lille-Paris Saint-Germain, comment tu le sens?
Justement, moi, je suis plutôt de l'avis de Kamel. Je pense que Galtier, il va proposer quelque chose, mais... c'est pour ça que je m'attends à un match avec moi plutôt beaucoup de buts. Et par exemple, je verrais bien par exemple un 4-2 de Paris ou peut-être Lille tenterait beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'il sort 90 minutes contre Paris. C'est...
Non, mais c'est-à-dire, voilà, comme il le dit.
Et par contre, j'aimerais passer un message. Je vais partir plus tôt parce qu'il y a Nice-Rennes et je veux le louper pour rien au monde.
Non, mais Kamel,
je plaisante,
Kamel,
bien sûr.
Mais voilà, non, mais à un moment donné.
C'est la Ligue des
Talents. Sur 90 minutes, le Paris Saint-Germain, il est imbattable. En France. Par contre, là où les Parisiens ont besoin d'adversité, c'est d'avoir de la consistance sur 70, 80, 85 minutes.
De l'intensité.
Voilà, de l'intensité. Oui. Et je pense qu'avec
Galtier, ça va le faire.
Galtier, ça peut le faire.
Justement, le coach du LOSC, donc Christophe Galtier, indique dimanche, j'aurai quasiment à disposition tout l'effectif, hormis Saad et Timothy qui reviennent au fur et à mesure. On va jouer avec notre philosophie de jeu. Nous avons nos repères dans ce système, Alison.
Justement, c'est ce qu'on disait. Galtier a fait des belles choses et a mis un beau système en place avec Lille cette saison. Et pour répondre à Achille, c'est pas que le Paris Saint-Germain n'a pas d'adversité, c'est que le Paris Saint-Germain est beaucoup trop au-dessus, en fait. Donc forcément...
Citez-moi les meilleurs joueurs de Lille.
L'écart est trop...
C'est quoi, les trois meilleurs joueurs de Lille, c'est quoi?
Renato Sanchez, Osimhen et Bamba, où il connaît.
Bamba,
il
connaît.
Il revient bien.
Une chose qui est importante. Vas-y, termine.
Non, mais c'est ça. Non, mais j'ai pas terminé ce que je disais. Hein. Et que l'écart est trop creusé, en fait. Il y a un gros écart entre Paris et les autres. En Ligue 1, c'est ça, malheureusement. Et donc, ça
c'est
leur permet. Exactement.
Mais ce qui est important, c'est que le PSG doit, sur 90 minutes, avoir 70 minutes d'intensité, de beaucoup d'intensité. Après, on connaît le résultat, ça sera la victoire. Mais le PSG jouant des matchs à 70 minutes, 75 minutes d'intensité, c'est une façon de se préparer pour la Ligue des Champions. S'ils ne jouent qu'une mi-temps, voire une demi-mi-temps, quand ils vont se retrouver en Ligue des Champions, on l'a vu en tous les huitièmes de finale, l'intensité en Ligue des Champions s'est multipliée par 5-6. Donc, le fait de jouer contre des équipes françaises offensives, qui vont les mettre en difficulté. Même s'ils les mettent en difficulté seulement 70 minutes et qu'à la fin Paris gagne 4-2, 3-0, 4-0, c'est pas grave. Au moins, ça sera un bon entraînement pour le PSG. Mais là, quand vous jouez à la baballe devant des poteaux, des plots.
Et comme l'Olympique de Marseille au Parc des
Princes. Oui, bien sûr, tu as raison. Mais moi, je l'ai dit. C'était n'importe quoi de la part de Villas-Boas. Mais bon, au-delà de ça. Mais ils ont besoin d'intensité. Mais bon, avant de jouer les coqs, qualifiez-vous en huitième de finale et on verra déjà, d'accord? Parce que là, vous jouez les coqs, les Parisiens, mais même pas capable de battre l'équipe C de Manchester United. Tête chez vous, avec la remontada, vous êtes en train de battre tous les livres de record. Donc, d'humilité, les Parisiens, s'il vous plaît. D'accord? D'accord? Hein, c'est comme si tu avais une Ferrari en Formule 1 et tu n'arrivais pas à gagner un grand prix de caisse à savon, d'accord? S'il vous plaît.
C'est ce qu'a fait Vettel toute la saison.
C'est quand même assez marrant.
C'est incroyable.
C'est quand même assez marrant d'entendre.
Pas capable d'aller en 8e de finale et ça donne des fous.
Étant donné que le Paris Saint-Germain, quand ils ont joué en Ligue des Champions et qu'ils se sont fait éliminer face à Barcelone et face à Manchester United, l'effectif n'était pas au complet.
Oh.
Merci.
Ah oui, c'est
FX,
vrai.
On enchaîne.
Enfin bref, oui.
Non, pas
le Paris Saint-Germain. Lille. Non, je pense ça va être.
Non, je pense qu'on a tout dit. Moi, je pense que ce sera les quatre de devant là, les petits danseurs.
Non, les quatre ballerines, fantastiques. Là, hein, s'il te plaît. Les quatre fantastiques.
Voilà, les petits danseurs étoiles là, les quatre de devant qui vont décider s'ils ont envie de faire un beau spectacle ou pas.
Mais moi, je dirais, excuse-moi, là où ça peut se jouer, c'est quelle défense va aligner Paris, parce qu'il y a quand même
Marquinhos
qui est blessé, etc. Et vu que Lille a une belle attaque quand même avec Osimhen, etc. Donc là, ça peut faire devant, derrière, un très bon match. Et ça serait bien. Maintenant, après, la bataille, là où le Paris gagne le plus, c'est la bataille du milieu de terrain. Bah ouais. C'est à un moment donné, c'est là qu'ils font la différence. Et il faut renforcer ce milieu de terrain. C'est ça le problème.
Parce qu'avec le système en 4-4-2, si on remarque bien, le Paris Saint-Germain a moins le ballon. Et c'est voulu pour des transitions beaucoup plus rapides. Cependant, ça les expose à des contre-attaques, ce qui est le point fort de nos amis
c'est
lillois.
C'est ce qui s'est passé contre Monaco.
Exactement. Et donc, c'est là où on va voir si Lille, qui a un style de jeu qui ressemble à peu près à Dortmund, on va voir si les consignes de Thomas Tuchel vont... Verratti qui doit lâcher le ballon plus vite... Idrissa Gueye, peut-être qu'il doit défendre peut-être un peu plus ou différemment.
Il joue pas, Idrissa Gueye est parti disparu depuis son match contre le Real, meilleur milieu de terrain du monde. Vous en avez fait.
Il a été blessé aussi.
Oui, il a été blessé deux fois.
Allison,
la transition, voilà.
La transition est parfaite, Achille, que tu fais. Toute mesure gardée. Presque, par contre, j'y mettrai un bémol. Lille ressemble un peu à Dortmund, sauf qu'à Dortmund, ça va encore un peu plus vite.
Ça va beaucoup
plus vite. Et dehors, devant, on a un petit tueur qui s'est révélé, le petit Haaland.
Oh, mais il n'y a pas que lui.
Mais là, il fait trembler toute l'Europe actuellement. Mmh. Tout le monde est devant lui. Donc là où ça sera une petite préparation pour le Paris Saint-Germain, en vue du match de Dortmund, en tout cas.
Parce que Osimhen va très vite aussi. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que c'est vrai que Dortmund joue beaucoup en contre-attaque et tu l'as dit, les transitions. Mais moi, je suis pas sûr qu'il joue avec ses quatre fantastiques devant. Attention à Dortmund.
Contre Dortmund.
Ouais, non. Moi, je pense qu'il joue en 4-3-3.
Justement, c'est un peu ça l'inconnu pour moi. Je me dis, est-ce que en C1, ce sera viable ce système-là en fait?
Ouais. Ça va dépendre
de l'adversaire. Je pense que contre Dortmund, justement, c'est très fort offensivement. Mais défensivement, hormis Hummels, le problème c'est que ça attaque tellement beaucoup que ça laisse énormément d'espace.
Sur les côtés.
Mais justement, ça laisse beaucoup d'espace derrière.
Avec Rafael Guerrero, tout ça. Ça va
relativement bête de se priver d'un attaquant supplémentaire que de mettre un milieu de terrain pour garder le ballon, faire jouer à la baballe comme Barcelone a pu le faire pendant des années.
Justement, le match de dimanche soir, est-ce qu'on s'attend à un test pour le Paris Saint-Germain?
Bien sûr, c'est un vrai test.
Pourquoi Achille?
C'est un vrai test parce que, n'oublions pas, Lille a joué la Ligue des Champions. C'est-à-dire que Christophe Galtier, avec tout le respect que je lui dois, c'est un des meilleurs coachs français. C'est un des meilleurs coachs français. Et partant de là, il n'y a pas de raison pour laquelle Lille ne produise pas un bon match et ne produise pas un bon jeu. Si tu veux oser dire que Lille a été dégueulasse en Ligue des Champions et que tu dis que tu supportes les torchons de l'équipe, écoute, ça n'engage que toi. Je suis désolé, Lille a fait de très bons matchs de Ligue des Champions, on n'a pas été réaliste.
Non, après,
en dehors de ça,
niveau,
c'est juste ça. Mais sinon, de là à me dire que Lille était dégueulasse, c'est pas Lille.
Merci,
moi, c'est pas Marseille.
Merci, mesdames, messieurs. Une pause et on se retrouve pour la suite de Time Sport sur Beurre FM.
Bilal Nenman.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
C'est pas Bilal Nenman, c'est Claude Tollet ce soir. On enchaîne avec la NBA, le duel.
Time Sport. Le duel.
Match de NBA à Paris, Milwaukee Bucks contre les Charlotte Hornets. Pour la première fois de l'histoire, deux équipes de NBA joueront un match officiel la saison régulière en France à Paris ce vendredi soir, donc à 21h à l'Accor Arena à Paris. Une première historique puisque c'est la première fois qu'une rencontre officielle de saison régulière de NBA aura lieu dans l'Hexagone malgré les polémiques liées au prix des billets. La salle parisienne sera remplie. L'attente est-elle aussi importante aux États-Unis? Vivien.
Aux États-Unis, clairement moins, parce que... Alors, pour présenter le match, ben, pour nous, les Français, c'est historique. Premier à Paris, premier match officiel. Mais le hic dans cette affiche, c'est que c'est un petit peu un match de Coupe de France. Et Milwaukee-Charlotte, c'est le premier Milwaukee avec le meilleur joueur du monde actuel, Giannis, qui a 30 points par match contre Charlotte. Alors, nous, on peut être content parce qu'on a notre Français Nicolas Batum, mais malheureusement, cette année... 3,5 points par match et voilà, Batum, c'est clairement sa pire saison NBA. On aime beaucoup Nico, mais donc si Milwaukee met un tout petit peu des ingrédients, pour moi, malheureusement, beaucoup de gens auront payé pour un match où il y aura 20-25 points d'écart.
Vivien, passionné toi de basket, ouais. Est-ce que tu vas assister à la rencontre ce soir?
Alors moi, malheureusement, non, parce que les places...
Il n'est pas un vrai passionné.
Mais les places, c'est aux jeunes, mais j'y serai pas, malheureusement.
On enchaîne. Alison.
Déjà, pour revenir sur le prix des places, il y a eu beaucoup de plaintes. Hein. Le prix est exorbitant. C'est la première fois en France, mais ça s'est fait ailleurs en Europe. Hein. L'année dernière, c'était à Londres. Et le prix des places n'était pas du tout équivalent. Hein. C'était entre 100 et 200 euros à peu près. Alors qu'ici, ça commence à 200 euros et ça s'envole jusqu'à 6000 ou je ne sais quoi. Pour justement voir un match qui finalement n'est pas si au sommet que ça. Parce que, comme l'a dit Vilvien, il y a Milwaukee d'un côté avec Giannis Antetokounmpo, si j'ai bien prononcé son nom, qui est en feu, qui est MVP et qui est à 30, à peu près une moyenne de 30 points par match. Et de l'autre côté, Charlotte, qui est un peu plus en difficulté. Et c'est vrai que la satisfaction sera de revoir Nico Batum. La satisfaction sera de voir un match de NBA de saison régulière, parce que ça, faut le préciser, hein, c'est pas un match de gala, c'est un match de saison régulière. Donc la satisfaction principale, nous, de notre côté français, sera de voir un match de NBA. Mais après, est-ce qu'on va voir un match fantastique? Je pense pas.
Non, mais c'est vraiment, excuse-moi d'interrompre comme ça.
Tu peux lâcher là, il n'y a pas de problème.
C'est une honte.
Totalement.
Je dis clairement, c'est une honte. Vous passez dans les médias, dans tous les médias, pour dire oui, premier match de NBA. Et c'est quoi l'affiche?
Milwaukee-Charlotte.
Charlotte? Rappelez-moi, c'était quand la dernière fois que Charlotte s'est qualifiée pour les playoffs?
C'était en 98.
Voilà, merci Vivien pour la stat.
Merci pour la stat. Non, mais c'est pour dire que c'est du foutage. Excusez-moi de parler comme ça, mais
il y a eu 2007,
c'est du foutage. Foutage, c'est n'importe quoi. Alors, c'est bien, oui, de voir Antetokounmpo, c'est très bien, mais je rappelle qu'il est grec.
Oui,
voilà, donc on est susceptible aussi de le voir dans le championnat d'Europe. Je vois pas pourquoi on devrait s'ébahir. Oui, c'est très bien, mais je vais NBA. Non, faut arrêter.
Non, si effectivement, autour de l'événement.
Non, mais si c'était l'All-Star Game, je peux comprendre. L'All-Star Game, c'est les meilleurs joueurs avec des prix affichés de cette manière-là. Oui, il y a aucun problème. Mais c'est encore une fois pour vous dire que la France est pris au ridicule. On nous prend pour des pigeons.
On enchaîne avec
Des pigeons, c'est tout.
Alors moi,
avec Kamel.
Moi, je vous trouve un peu dur par rapport à ça. Il y a eu quand même 100 000 demandes hein, de tickets. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'il y a vraiment une envie de tous les passionnés de basket de voir quand même.
C'est pas question de passionnés de basket, c'est qu'en France, on connaît pas le basket et que on nous a vendu un super match de NBA avec Milwaukee Charlotte et que les gens ne connaissent pas. Ils se sont dit NBA. On y va. C'est
oui,
pour les connaisseurs, comme Vivian, on sait ce que donne le match, on sait quels sont les résultats, on sait qu'il y a un grand écart entre les deux équipes. C'est pas un vrai match.
Le but, je pense que pour les passionnés de basket, le passionné lambda, j'entends après s'il y en a qui veulent jouer la fine bouche et aller voir le truc, ils aillent aux États-Unis et qui dépensent. Mais attends, laissez-moi terminer. Qui dépensent 8000, 9000 euros, c'est leur problème. Mais moi, je pense que le passionné lambda, il est heureux de voir un match de la saison régulière, comme vous dites, même si c'est des équipes moyennes, c'est un fait, parce que imaginez-vous à 6000 euros le prix pour des équipes moyennes, si ça avait été des équipes de haut tableau, ça serait un drame. Donc, je pense qu'ils sont, et s'il y a 100 000 demandes, c'est qu'il y a quand même de billets, c'est qu'il y a quand même une euphorie sur ce match-là. Les gens ont envie de voir juste un match de NBA, de basket. Maintenant, ce qui est fort, c'est que derrière, c'est la machine NBA. Ça veut dire, il y a eu des événements pendant toute la semaine autour de ce match-là. Il y a même une anecdote qui m'a surpris. Et je dis, les Américains, ils sont vraiment forts. Et là, on dit les Français, on est ridicules, c'est un fait. Ils ont fait venir le parquet des États-Unis. Ouais. Le parquet des États-Unis, ils l'ont fait venir. C'est sa sœur, ils n'ont même pas voulu jouer sur le parquet français.
C'est
vrai. Bon, donc, il y a un moment donné, on se dit, ridicule. C'est du haut niveau.
Mais
moi qui suis un passionné de basket, et encore, moi, je suis de l'époque Larry Bird, Magic Johnson, moi, j'aurais pas payé 6 000 euros, là, jamais. Moi, ça m'aurait J'aurais aimé voir un match de basket, mais n'importe quelle équipe, juste pour voir le fun, quoi, ce truc. Mais à la limite, dans ces cas-là, vaut mieux aller aux États-Unis, sincèrement, pour aller voir un match comme ça, vaut mieux aller aux États-Unis.
Mais après, il y a deux problèmes avec ça, c'est que par exemple, tu prends à Barcelone, au moins, il y a NBA Café, et tu dis en fait quelles sont les retombées. Le basket parisien, dans Paris, il faut rappeler, on n'a aucun club de Pro A, on n'a aucun club de Ligue féminine, même l'Euroleague est très très loin de Paris. Donc bah, c'est ça le problème.
Quand même,
c'est
Paris-Levallois quand même qui est là.
Alors maintenant ils sont repartis au fin fond du 9-2.
Non mais le but c'était de vendre des billets, c'est tout. C'est pas de promouvoir.
Ouais
en
mais
France,
justement c'est
non, du business.
C'est non on a ça, on se dit mais finalement c'est cool, on va s'amuser comme ça fin janvier, mais en février en fait c'est fini.
Justement Alison, pourquoi la ligue sportive la plus puissante du monde a-t-elle choisi la France?
A choisi la France bah, pour l'argent, hein, tout simplement. Bah
oui, moi, ça fait rêver
Paris. Il y a Tony Parker, il y a un autre joueur. Il y a Parker, Batum, et il y a un autre joueur dont le nom...
Il y
en a un quatrième, dont le nom m'échappe. Et déjà, donc, ceux-là qui sont là pour promouvoir, on connaît, ça date un peu d'un certain temps, ils sont là pour promouvoir le basket en France et faire grandir... la Pro A et ensuite on sait que ça va faire vendre. Nous, nous sommes pas des connaisseurs de basket, donc finalement on nous met un peu de paillettes dans les yeux, on nous dit qu'il y aura un match de NBA avec des grands joueurs, avec ça sera une ambiance phénoménale et on croira que on est aux USA. Bah forcément nous petits français, bah, on y va.
J'ai lu des articles, ouais. des interviews des joueurs de Charlotte, etc. Et ils sont eux-mêmes heureux de venir à Paris, hein, parce que Paris quand même c'est l'une des plus belles qu'on dit. Ils sont heureux de venir jouer à Paris,
moi ce que je me dis, c'est comme à l'époque où Disneyland s'est installé à Paris. Si la NBA veut nous faire rêver, ben dans ce cas-là, qu'ils installent un truc permanent ici. Soit un café, soit quelque chose de permanent.
C'est typiquement français. Regardez, il y a un truc, c'est typiquement. Quand un match français est délocalisé dans un pays du monde, les premiers à râler, c'est les Français. Là, les Américains nous proposent un match de saison régulière. Et on joue la fine bouche. C'est incroyable quand même.
Bien sûr, parce que.
Non, mais parce que.
Non, mais attendez.
C'est peut-être historique.
Mais il faut arrêter de prendre les Français pour des cons à payer.
Non, mais attends, excuse-moi.
À vendre des tickets.
Non, mais
s'il vous plaît, je vais quand même terminer. À vendre des tickets en moyenne entre 500 et 2500 euros le prix d'un billet, lorsque vous allez aux États-Unis, le prix d'un billet, vous savez c'est combien aux États-Unis?
Bah au Staples Center, pour avoir une bonne place, tu vas mettre 500 dollars. Hein.
Pour avoir une bonne
place.
Mais tu
l'as la place au Staples Center?
Bon, voilà.
C'est pas
là,
tout fait pour les tout.
Non mais, ah, oui, non, là, mais voilà. Non mais ce que je veux dire, c'est que pour 500 euros ici, t'es où? Ben ouais, t'es tout en haut et tu vois rien du tout. Donc c'est là où je dis que si vraiment la NBA faisait vraiment un vrai geste envers la France, c'est-à-dire que oui, on délocalise un match de saison régulière, dans ce cas faites des billets pour attirer le maximum de monde.
Mais ils ont attiré.
Et éventuellement.
Parce qu'il y a 100 000 demandes. Ouais, le stade, il est plein. L'aréna est plein.
Et j'irai dans le sens d'Achille et j'élargirai un peu plus le propos. Et ben, je suis désolée, Kamel, je vais dans le sens d'Achille. Ça s'étend à tout, ce côté américain. Ça s'étend au concert. Au concert, on paye deux fois le prix en France. Au concert de n'importe quel artiste américain. Ça s'étend sur tout le fait de venir en France et plus largement en Europe et de faire payer deux fois plus.
Mais juste une chose, c'est la loi de l'offre et de la demande. Je vais dire ça gentiment, calmement. C'est la loi de l'offre
et de la demande. Ça ne te ressemble pas,
Kamel. Je sais, merci. J'aime bien des fois prendre à contre-pied. C'était mon geste technique favori au football, le contre-pied. Il y a un moment donné, ils viennent, il y a 100 000 demandes. Ça veut dire ils pouvaient. C'est-à-dire, ils n'ont pas mis le pistolet sur la tempe des Français.
Et c'est parti en trois minutes.
Vous imaginez? Ça veut dire que même s'ils avaient fait trois matchs, quatre matchs d'affilée dans la semaine, les quatre matchs. Donc le Français n'est pas si bête que ça. Il y a un moment donné, c'est qu'ils ont envie de voir se faire payer. Et celui qui a mis 6 000 euros, il avait les moyens de mettre 6 000 euros, il a le droit de les mettre. Mais il y a un moment donné, nous les Français, quand un match, les matchs de la Ligue, la finale de la Coupe de la Ligue a été délocalisée, les premiers, on a joué les Franchouillards, c'est pas normal, c'est à l'extérieur. Tatati. Là, on a un match de NBA, c'est historique, comme tu l'as dit, Vivien, et on fait la fine bouche. Arrêtons un peu, prenons du plaisir là où il y en a.
Alors, justement, n'est-ce pas aussi un signe de la bonne santé du basket français? On se retrouve avec ce type de rencontre.
Ça prouve que c'est attractif. On peut clairement dire merci à Tipeee. Ça, c'est... Oui, c'est Tipeee, premier français au Fusu, qui sera bientôt Hall of Fame dans quelques années. C'est...
Et je conseille à nos auditeurs et nos auditrices, je termine là-dessus, j'ai mis un petit truc, big up. Le documentaire sur Lasvel.
La série.
La série, moi, je l'ai regardé. C'est magnifique. Et qui continue. Franchement, c'est magnifique. Moi, je ne suis pas un grand fan de basket, mais je suis pris au jeu. Et c'est magnifique. Ça parle du club de Lasvel.
Il y a des intérêts économiques pour lesquels l'NBA vient en France. Il y a des ponts qui sont en train de se faire avec Villeurbanne, c'est Lasvel.
Oui, Lasvel.
Lasvel,
oui, bien sûr.
Avec l'Olympique lyonnais. Parce que faut dire aussi, on fait la petite transversalité d'un point de vue.
Bah, ils sont Jean-Michel l'Olympique lyonnais est actionnaire de Lasvel. Hein, voilà, l'Olympique lyonnais est actionnaire de Lasvel, oui.
Donc, à 30%. J'ai envie de vous dire, il y a des accords aussi avec San Antonio. Donc, peut-être des transferts de joueurs, etc. Tout ça, c'est de la police, c'est de l'instrumentalisation. Après, si maintenant, je trouve ça un petit peu dommage et regrettable que ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'aller aux États-Unis, ils ont la possibilité d'avoir un match en France et c'est quasiment un salaire,
juste,
quoi.
Juste.
Ils doivent aller lâcher pour aller voir un match de
basket. Achille. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Je vais juste faire une petite parenthèse.
Ouais.
Et pourtant, moi, j'ai toujours défendu les Qataris, les Parisiens. J'ai voulu acheter une place pour mon fils PSG Barcelone. Tu sais, elle était à combien la place ? 1000 euros. Voilà, au PSG. Il y avait des passes, elles étaient à 1000 euros en Ligue des Champions. Donc je pense que quand on se donne des leçons par rapport aux Américains, nous-mêmes, il faut qu'on balaye devant notre porte. C'est-à-dire, même à Paris, les places, ils sont exorbitantes. Pour voir la Ligue 1 des talents, la Ligue 1 Conforama contreplaqué. Donc t'imagines. Donc voilà, donc les places à Paris, en Ligue des Champions, ils sont à plus de 1000 euros, 1500 euros.
Faut
voilà.
Profiter, ça va revenir en 2021 aussi pour information. Voilà, c'est un partenariat à long terme. Mais maintenant, voilà que ça, je pense que ça va quand même aider au rayonnement du basket français.
Alison, on est d'accord, donc le choix est plutôt économique ou médiatique, plutôt sportif.
Le choix est dans un premier temps économique. Mais pour nuancer un peu le propos, c'est quand même bien que la NBA s'implante un peu en France. Ça peut faire découvrir d'autres choses, d'autres sports et ouvrir de nouvelles passions. Et ensuite, ça fait quand même rêver de voir le meilleur joueur de basket actuellement jouer à Paris.
Merci Alison, on enchaîne avec le mode pressing.
Time Sport, le mode pressing.
Et pour clôturer cette émission de Time Sport, on va parler un petit peu de tennis, l'Open d'Australie. Femmes, les Françaises du Grand Chelem, les chiffres de la crise. Une seule joueuse au troisième tour lors des quatre derniers majeurs. Rarement le tennis féminin français avait été aussi peu à la fête en Grand Chelem depuis le début de l'ère d'Open en 1968. Au total, ce sont 32 années marquées par la rareté des troisièmes tours désertés par les Française. Vivien.
Moi, le peu que je constate, moi, je trouve que les Françaises, pour moi, font beaucoup de fautes directes, dans le peu de matchs que j'ai vus. Donc, le premier truc que je vois, c'est un manque de constance, malgré la Fed Cup, où on pourrait se dire, voilà, on est champion du monde, etc. Moi, je pense que, par exemple, aucune Française peut battre Coco Gauff, qui a 15 ans. Actuellement, pour moi, aucune Française ne peut battre Coco Gauff, par exemple.
À qui la faute, Kamel ?
Moi, je pense que je regarde beaucoup les matchs du tennis français. Je pense que c'est le tennis français qui est en grande difficulté, ça soit bien aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Il y a un manque.
Surtout chez les femmes.
Surtout chez les femmes, oui.
Hors du top 40, personne.
Parce que quand vous voyez comment ils ont eu du mal, la Fédération française, à réunir une équipe de Fed Cup féminine, parce qu'elles se tiraient tous dans les pattes et il n'y en a aucune qui voulait jouer pour la Fed Cup. Après, moi, quand je vois qui coach ces joueuses, c'est du n'importe quoi.
Est-ce qu'on comparait ça au foot féminin ? Je sais pas,
Non. Je pense que le tennis féminin mondial, quand il est bien géré, c'est du haut niveau, c'est du très haut niveau.
Je parle des Françaises.
Ah oui, les Françaises, oui, dans les Françaises. Parce que un coup c'est le papa qui coach, un coup c'est la maman, un coup c'est la tata. Donc c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas une structure autour d'elles qui fait qu'ils vont pouvoir évoluer. Et c'est ça le problème du tennis féminin.
On enchaîne avec Achille.
Et elles sont capricieuses aussi, très capricieuses.
Je vais parler du tennis en règle générale. Je connais pas mal de tennisman français et j'ai été confronté en discutant avec eux à un certain nombre de choses qui m'ont vraiment extrêmement choqué. C'est-à-dire qu'ils font leur formation dans les trois quarts du temps pour tous les tennisman, hommes comme femmes. Ils vont tous pour les meilleurs aux États-Unis, à Miami. D'accord ? Ils font le camp Bolitieri, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et après ça, ils reviennent en France. Et là, oui, effectivement, ils font les tournois, les classements, et ainsi de suite. Mais quand on regarde aujourd'hui, que ce soit le tennis féminin comme masculin, aujourd'hui, il n'y a que Gaël Monfils qui vient de se qualifier la nuit dernière.
par rapport à ça, il y a un problème de mentalité, en fait. Les mentalités françaises au tennis sont devenues trop faibles.
Justement, quelles sont les solutions pour pallier la défaillance franco-française?
Il faut s'inspirer des États-Unis, c'est-à-dire que la machine de guerre. Tu fais un sport, tu t'engages jusqu'au bout.
On a aussi Mouratoglou en France qui a relancé Serena Williams.
Oui, regardez,
donc on a des entraîneurs français qui sont bons.
Vous avez le meilleur entraîneur du monde, un des meilleurs entraîneurs du monde.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Qui est français. C'est Mouratoglou, tu l'as dit, qui a relancé Serena Williams. Mais non, parce qu'ils veulent rester, ils veulent faire de l'entre-soi. C'est-à-dire, ils veulent, leur staff technique, c'est papa, maman, la cousine, qui connaissent rien du tout au tennis. Et à un moment donné, ça. Elles sont capricieuses.
Voilà, mais ils se contentent du minimum.
Oui, voilà. Oui.
Merci, messieurs, dames. On arrive tout de suite à la fin. On aurait aimé encore parler des heures. On se retrouve lundi prochain pour la suite des émissions. Restez connectés.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.